Aujourd'hui, nous sommes dans l'harmonie, grâce à Jean-Philippe Luzan, que j'invite. Bonjour Jean-Philippe.
Bonsoir.
Bonsoir, bonne année.
Merci, bonne année à vous.
Ce n'est pas la première fois qu'on se voit, puisque j'ai cru comprendre que tu étais là depuis 2003, donc j'ai eu le temps de réagir. 2003-2004, on n'était pas tout à fait sûr. Enfin voilà, Jean-Philippe Luzan est donc parmi nous, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il est aussi, il a plusieurs casquettes, comme beaucoup d'entre nous, mais une prestigieuse casquette, puisqu'il est directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. Voilà, il a commencé, fait sa thèse à, pas très loin de chez nous, à l'Observatoire de Meudon, vous voyez, tout se tient, nous sommes collègues depuis très longtemps, sur la cosmologie théorique, une thèse de cosmologie théorique. Le titre de la thèse doit soit être compliqué, soit être tenu secret, j'en sais rien, c'est peut-être...
Rien de secret.
Bon, il n'a pas voulu, je ne peux pas savoir.
Commençons bien l'année.
Commençons l'année. En tout cas, son laboratoire était le Dark, donc on reste toujours dans l'obscurité. Voilà, sous la direction de Nathalie Deruel. Non, mais ceci étant, c'était une thèse extrêmement sérieuse, et à partir de cette thèse, il a effectué un post-doc à l'université de Genève. Son sujet de prédilection est l'université... c'est pas loin. L'univers primordial, la topologie, la notion de constante. Qu'est-ce qui fait que certaines constantes sont constantes ou pas? Et donc ça nous conduit effectivement à se poser des questions sur, en particulier celle-là, sur l'harmonie de l'univers. Il ne se contente pas de faire de la recherche, mais se passionne également pour la vulgarisation scientifique, a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier qui est un ouvrage collectif, Variations sur un même ciel, que je vous recommande. En tout cas, j'ai envie de le lire, mais je ne l'ai pas encore eu dans les mains. Voilà, ça ne va pas tarder, j'espère.
J'ai reçu le message.
Variations sur un même ciel. Non, mais j'ai vu que ça promettait d'être croustillant et passionnant. De temps en temps, Jean-Philippe disparaît, mais c'est pour la bonne cause, puisqu'il a passé de nombreuses années à collaborer avec nos collègues d'Afrique du Sud, toujours sur la cosmologie. Voilà. En tout cas, merci Jean-Philippe, et je te laisse parler de l'harmonie dans l'univers.
Bon, ben merci beaucoup, Daniel, pour cette introduction. Bonsoir à tous, bonne année de nouveau. Et, donc, j'avais donné une conférence déjà dans ce cadre il y a 10 ans, donc c'est agréable de revenir ici. Et aujourd'hui, c'est un peu une conférence un petit peu particulière, donc je vais vous parler d'harmonie dans l'univers. Je vais essayer d'aborder des sujets qu'on n'aborde pas toujours quand on fait de la vulgarisation scientifique, parce que je vais vous parler de science et je vais vous parler de musique. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi on va parler de science et de musique. Eh bien la raison principale, c'est que c'est deux choses que j'aime. Voilà. Donc quand vous aimez des choses, vous essayez de les mettre ensemble et puis vous essayez de vous amuser. Ça c'est la raison principale. Après il y a d'autres raisons, c'est que souvent quand vous discutez avec des mathématiciens ou avec des physiciens, théoriciens, ils vont vous parler de la beauté de leur théorie. Et ça c'est quelque chose qui vous laisse un petit peu, si vous n'avez jamais fait de maths ou de physique, vous allez vous dire, mais ça veut dire quoi qu'une théorie est belle? Comment on reconnaît? Pourquoi il y a une notion de beauté qui intervient dans ces trucs qui sont des calculs, qui parfois prennent des pages et qui semblent complètement cryptiques et immondes? Donc d'où vient cette notion d'harmonie? Et le parallèle avec la musique va peut-être nous éclairer un tout petit peu. Alors je ne veux pas faire non plus un discours sur l'esthétique des théories scientifiques, mais je pense qu'il y a un certain lien et on va essayer de comprendre d'où vient ce lien. Et puis ce sujet en fait est né parce qu'il y a quelques années, j'ai développé un projet dans une école en Seine-Saint-Denis, c'était avec la Fondation 93, et donc avec un ami qui est compositeur, nous avons mené un projet autour du son et de la lumière. Quels sont les parallèles entre le son et la lumière, les différences, aussi bien en science qu'en art? Et on a commencé à travailler avec ces enfants, donc à partir de choses très très bêtes, hein, voilà, on tape, on fait du bruit, on se voit. Et on a voulu parler de l'univers, donc leur univers local, mais l'univers aussi qu'ils perçoivent en son et en lumière. On a essayé de les comparer et on a essayé de se poser la question de savoir quelles informations on apprenait par le son et par la lumière. Suite à ce projet, il y a eu une soirée et puis avec les gens qui avaient organisé ces séminaires, ces projets dans les écoles qui sont la Fondation 93. Et là, comme souvent, j'ai parlé peut-être trop vite avant de réfléchir. J'ai dit, mais en fait, c'est paradoxal. On a fait tout ce projet sur son et lumière dans l'univers. Et puis, dans l'univers est vide. On sait qu'il n'y a pas de son qui se propage dans l'univers. C'est un peu paradoxal. Est-ce qu'on pourrait pas s'amuser à imaginer un truc un peu à la science-fiction, de se dire, mais l'humanité naît aveugle, nous n'avons pas d'yeux, nous n'avons que des oreilles. Eh bien, nous voulons savoir appréhender l'univers qui est autour de nous. Comment ferions-nous? Et puis, quelle image de l'univers est-ce que nous arriverions à créer à partir simplement de ce sens qui sont nos oreilles? Est-ce qu'on serait complètement, je ne vais pas dire aveugle, mais presque, puisque le son ne se propage pas et donc on entendrait un grand noir ou un grand blanc? Ou qu'est-ce qu'on ferait? Et puis, en creusant cette idée, on s'est dit, mais en fait, on le fait déjà, puisque la plupart de beaucoup d'observations en astronomie aujourd'hui sont dans des couleurs qui ne sont pas accessibles à notre œil. Alors, l'être humain, quand il veut appréhender le monde qui l'entoure, va partir de l'objet de mesure qui est le premier à sa disposition, c'est-à-dire son corps et ses sens. Nous voyons dans une certaine gamme d'ondes, nous avons une perception de ce que sont des objets solides, nous entendons et dans une certaine gamme de fréquences. Et puis, une des avancées de l'histoire des sciences, c'est d'utiliser ce qu'on est capable de connaître des théories de la physique pour créer des appareils de mesure qui étendent ce que l'on peut appréhender du monde, ce que l'on peut tester, ce que l'on peut voir. On va inventer, dès qu'on découvre l'optique, on peut inventer des microscopes, des télescopes, et ça va nous permettre de découvrir une nouvelle réalité qui sont inaccessibles à nos sens. Donc on pourrait se dire, essayons de faire la même chose. Nous avons juste nos oreilles. On peut peut-être imaginer qu'un jour on aura des télescopes, mais que ces signaux que l'on va recevoir vont être transformés dans des sons et qu'on va essayer de les écouter et qu'à partir de ça, on va essayer de comprendre l'univers qui nous entoure. Donc on est parti sur cette idée et les gens de la Fondation ont dit, quitte, faites-le. Alors là, on était un peu coincé parce que on plaisantait comme ça, ça serait bien d'écrire de la musique qui fait ci, qui fait ça, on mettrait des données, on ferait des trucs, blablabla, blablabla, vous mangez, vous buvez un peu, puis à la fin, on vous dit, faites-le. Et là, c'était un peu coincé, donc moi, j'aime beaucoup la musique, et puis j'avais cet ami qui était musicien, on s'est dit, finalement, essayons de le faire, donc on a travaillé pendant presque un an à trouver des façons de transformer des données astrophysiques en sons, de jouer avec toutes les théories de la physique et de voir ce qu'on pouvait créer. On a créé une pièce qui s'appelle Vostok, qui dure 22 minutes et qui raconte un voyage dans la galaxie à partir des théories physiques que l'on connaît aujourd'hui et qui a été créé à l'automne 2010 à la Cité des Sciences. Donc depuis, en fait, ça s'écoute dans une cabine qui a été créée par un designer hollandais qui s'appelle Joop van Lieshout. Et donc vous rentrez à l'intérieur de la cabine et puis c'est du son spatialisé, c'est de la musique concrète, de la musique contemporaine, électroacoustique. Donc pour certains, ça leur fait hérisser complètement les poils. Pour d'autres, ils trouvent ça bien. Ou alors ils sont suffisamment polis pour dire qu'ils trouvent ça bien. Et on a créé ça. Ça a été pendant donc plusieurs mois à la Cité des Sciences. Ensuite, ça a voyagé un petit peu en France. Et récemment, c'est rentré au Conservatoire national des arts plastiques. Donc comme quoi, dans un truc des collections de l'État, on était très étonnés de ce parcours. Et donc, en créant cette chose-là, je me suis un petit peu intéressé à ces liens entre science et musique. Et puis, bien sûr, il y a des choses qui me sont revenues à l'esprit. Puis j'ai gratté, puis j'avais un tas de trucs. Et je me suis dit, on va en faire une conférence parce que je trouve ça vachement intéressant. Donc, je pense que pour justifier mieux que tout, il faut retourner à la Grèce antique. C'est là, quand vous commencez vos dissertations philosophiques en terminale, on vous dit que si vous voulez bien justifier le sujet, vous avez une bonne citation grecque, ça met vraiment ça ancre dans la tradition. Et Platon nous dit dans la République que l'astronomie et la musique sont des disciplines sœurs. Vous voyez, il nous dit, il semble que comme les yeux sont formés pour l'astronomie, les oreilles l'ont été de même pour le mouvement harmonique, donc c'est pas très clair ce que ça veut dire ici, et que ces sciences sont sœurs, comme le disent les pythagoriciens et comme nous la mettons avec eux. Donc, ces deux disciplines seraient sœurs, il y aurait une connexion très très forte entre les deux. On est à une époque où en Grèce, on invente en fait beaucoup de mathématiques, on développe l'astronomie, on développe la philosophie, et en fait, le développement de ces trois disciplines vont s'enchevêtrer, et on voit que Platon réfère à Pythagore. Et donc, je pense que le mieux, c'est de commencer par ce point de départ qui est Pythagore, parce qu'en fait, il a fait quelque chose que je trouve très très profond, et donc c'est aussi un de mes héros en science, Pythagore. Donc Pythagore qui est né dans l'île de Samos, qui est ici, en 580 avant notre ère. Et Pythagore, alors c'est plus un mythe qu'une personne, on sait très peu de choses sur Pythagore, on attribue beaucoup de choses à Pythagore, il y avait toute une école pythagoricienne qui a travaillé principalement en mathématiques. Ici, vous voyez un des résultats fondamentaux qu'on apprend tous à l'école, qui est le fameux théorème de Pythagore sur les aires d'un triangle rectangle. Et Pythagore a eu un certain nombre de résultats et on ne sait pas si ces résultats ont été vraiment dérivés par Pythagore ou par son école, même après sa mort. Alors, la légende nous dit que Pythagore se baladait souvent dans son île de Samos, et en particulier il allait au village, et que souvent il passait devant l'atelier du forgeron. Il passait devant l'atelier du forgeron et le forgeron forgeait. Ça veut dire qu'il avait un marteau, une enclume, et puis il tapait dessus sur des morceaux de fer qu'il avait chauffés. Et Pythagore se serait rendu compte que le son qu'émettait ce marteau en frappant des objets dépendait de la taille des objets. Il a fait cette observation, il a cogité, c'était Pythagore, et il est rentré chez lui, et il s'est dit, mais on pourrait essayer de tester cela. Et Pythagore a commencé à faire des expériences sur la production des sons. Alors ça, ça nous est rapporté, ici c'est une gravure sur bois qui date du Moyen-Âge, où on voit Pythagore. Alors, si vous ne le reconnaissez pas, on marque son nom ici, Pythagore. Vous voyez, même l'auteur n'est pas trop sûr de savoir comment ça s'écrit, Pythagore, il change d'une vignette à l'autre, c'est comme ça. Et là, on voit Pythagore, regardez ici, Pythagore qui observe des forgerons qui tapent sur des morceaux de métal. Ici, Pythagore qui fait des expériences avec des cloches, avec des verres, comme on faisait à la cantine. Vous savez, à la cantine, on mettait de l'eau dans les verres et puis on tapait dessus. Parce que c'est disputé après, mais on faisait ça, on faisait déjà des mathématiques. Ici, on voit qu'il frotte des cordes, et puis au bas de ces cordes, on voit des masses sur lesquelles il y a des petits nombres qui sont inscrits. Et ici, qui joue de la flûte avec Philolaos, ils ont l'air de bien s'amuser. Vous voyez, la recherche, c'est quand même quelque chose d'assez agréable, surtout quand on collabore avec des amis. Et ce qu'il faut voir ici, c'est que vous voyez ces nombres, vous avez des 12, des 16. Eh bien ça représente des volumes d'eau, la taille des cloches. Ici, vous avez des masses de plus en plus importantes. Et donc la corde va être de plus en plus tendue. Et ça, si vous avez déjà pris une guitare ou pris un violon, vous savez que plus vous tendez la corde, plus vous allez avoir un son aigu. Et donc ici, on peut imaginer qu'on a mis différentes masses et on va comparer les sons produits par ces cordes quand on les frotte. Donc Pythagore fait ses observations. Et comme le dit Arthur Koestler, par ses expériences, Pythagore a transformé le bruit en information. Alors, quelle information? Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en reprenant, en fait, l'expérience qu'a fait Pythagore. Donc, on va pas prendre tous les instruments, on va faire avec la corde, parce que la corde, c'est le plus simple. Donc, on va prendre une corde qu'on va attacher ici et qu'on va tendre, et puis on va faire vibrer cette corde. Alors, la vibration de cette corde est caractérisée par une quantité qu'on appelle sa fréquence. C'est le nombre de fois que la corde oscille en une seconde, et ça, c'est ce qu'on appelle donc la fréquence et qu'on mesure en hertz. Donc une corde qui vibrerait une fois par seconde, ça serait une fréquence de 1 Hz. Et cette unité, le Hz, eh bien, ça vient du nom de Heinrich Hertz, que vous connaissez peut-être, qui est un savant du milieu du 19e siècle, qui est le premier à avoir fait des expériences avec des ondes électromagnétiques, à créer des récepteurs et des émetteurs d'ondes électromagnétiques, et de comprendre quelle était vraiment la nature ondulatoire de ce phénomène électromagnétique. Et en son honneur, on a donné l'unité de fréquence. Donc si on prend une corde qui vibre 440 fois par seconde, elle a donc une fréquence de 440 Hz, eh bien, si vous demandez à un musicien, il va vous dire, cette note, eh bien, cette fréquence ici, ça s'appelle un La. Alors, si vous êtes un peu musicien, vous avez peut-être déjà vu ce genre de notation, ça, c'est le La. Si vous ne le savez pas, si vous n'avez jamais fait de musique, c'est juste une façon de noter la fréquence. Ici, vous avez ces cinq lignes qui sont une portée, ça, c'est une clé de Sol, ça veut dire que sur la deuxième ligne, c'est Sol, et vous êtes juste au-dessus du Sol, ça s'appelle le La. Voilà, c'est le La. Donc, une corde qui vibre à 440 Hz, c'est un La. Maintenant, que se passe-t-il si nous prenons la même corde et que nous la pinçons au milieu, c'est-à-dire que nous faisons vibrer une corde de longueur moitié? Elle va émettre un autre son, et la question, c'est de savoir quel est ce son. Avec quelle fréquence est-ce qu'elle vibre? Et ce que l'on peut se rendre compte, c'est que cette corde de longueur moitié va vibrer avec une fréquence qui est une fréquence double. On va donc avoir une note qui est du 880 Hz. Et cette note, c'est encore un La, mais un La qui est aigu, un octave plus haut. D'accord? Donc vous voyez, à 440 Hz, j'ai le La, ici qu'on appelle le La 4, et à 880 Hz, j'ai le La 5. Donc on voit qu'il y a une connexion très, très, un peu mystérieuse qui apparaît entre le fait qu'on ait un octave, deux notes qui finalement ont des hauteurs différentes, mais qui sont la même sonorité, et le nombre 2. Alors Pythagore va continuer ça, il va essayer de regarder un petit peu quels sont les rapports quand on pince la corde, pas simplement au milieu, mais à différents endroits de cette corde, et voir à quel moment les sons que l'on obtient vont bien ensemble, ils sont harmoniques, ils sont contents d'être ensemble. Et donc il va remarquer que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on pince la corde au milieu, on va obtenir un octave, si on la pince aux deux tiers, on va obtenir une quinte, et si on la pince aux trois quarts, on va obtenir une quarte. Alors déjà, quand vous faites cette observation, c'est merveilleux, parce que vous savez, même si vous connaissez pas beaucoup de musique, un jour vous vous êtes retrouvé devant un piano et vous voulez faire un truc qui semble, qui soit pas trop dissonant, vous faites une quinte, vous faites une quarte, ça fait super, c'est presque Beethoven, vous voyez, ça prend de l'espace comme ça. C'est vraiment des accords où les notes qui sont jouées ensemble vont très bien ensemble, ça a une sorte de plénitude. Et puis là, vous voyez, ces accords qui sont vraiment les plus harmonieux sont reliés à des nombres qui sont 1, 2, 3 et 4. Donc les nombres les plus simples que l'on puisse imaginer en mathématiques, n'y a pas le zéro, mais on n'a pas besoin du zéro. Et on s'arrête à 4 et ça va suffire. Et donc, on voit qu'on a cette relation étonnante entre des nombres, des fractions créées à partir de nombres très très simples et des accords. Et puis, on peut aussi faire des mathématiques avec ces notes. Parce que vous voyez, si je prends une quarte et une quinte, donc je pince à 3/4 et ensuite à 2/3, eh bien ça revient à pincer à 1/2. Donc quelque part, si j'ajoute une quarte à une, si je prends la quinte d'une quarte ou la quarte d'une quinte, eh bien j'obtiens un octave. Alors ça, c'est étrange. Et on va pouvoir utiliser ça pour créer la gamme musicale. Alors regardez ce qu'on va faire. On va utiliser simplement le rapport 2/3, qui est la quinte, et le changement, multiplier la corde par 2, qui veut dire descendre d'un octave. Donc si je pars sur une note que j'appelle arbitrairement Do, et que je pince la corde aux 2/3, je la fais sonner, je vais entendre une note qui est une quinte au-dessus, une quinte plus aiguë, et ça va être un sol. Je continue, je pince encore à 2/3, et je vais obtenir une corde, une note qui est encore une quinte plus haute, et c'est un ré. Alors je pourrais continuer, ça va faire des notes de plus en plus aiguës, comme je ne vais plus pouvoir les entendre, ce que je vais faire, c'est que je vais allonger ma corde d'un facteur 2, donc je vais descendre d'un octave, vous voyez, c'est le même ré, un octave plus bas. Et puis je recommence. Je fais 2/3, je trouve une nouvelle note qui est le La. Je fais 2/3, je trouve une nouvelle note qui est le Mi. Et puis je veux redescendre d'un octave pour toujours rester dans cet intervalle-là. Et je continue, j'alterne mes quintes et mes quarts. Et je vois qu'au bout d'un certain nombre, d'un certain moment, je vais retrouver sur une note qui s'appelle le Si dièse et qui est le Do. Alors vous voyez, si vous comptez, vous voyez que j'ai, pour construire toutes ces notes, et vous allez en compter 12, qui sont les 12 notes de la gamme chromatique, vous avez besoin de 12 quintes, qui sont donc 12 fois le facteur 3,5, et que ça correspond, on a descendu 7 fois, à 7 octaves. Donc le fait qu'au bout d'un moment, on ferme, c'est que 12 quintes, c'est égal à 7 octaves, donc ça voudrait dire que mathématiquement, il faudrait que 3,5 à la puissance 12, c'est égal à 2 puissance 7. Je ne sais pas si vous êtes très fort en maths. Si cette égalité vous semble quelque chose de naturel, mais regardez, ça veut aussi dire que 3 à la puissance 12, c'est égal à 2 à la puissance 19. Or, 3 puissance 12, c'est un nombre impair. 2 puissance 19, c'est un nombre pair. Il y a fort peu de chances que j'ai le droit d'écrire un signe égal entre les deux. Donc, quelque part, cette construction qui semble marcher est fausse. Elle est juste approximativement fausse. Si vous regardez cette égalité, vous prenez une calculatrice, vous allez voir que cette égalité est vraie à 1,3% près. Ce qui veut dire que pour des gens ordinaires, comme vous et moi, eh bien, on n'entend pas la différence, en fait, entre ce si dièse et ce do. Mais il y a des gens qui sont capables de l'entendre. Et vous voyez, pour retomber sur le même Do, si je remplace le Si dièse par un Do, la dernière quinte, elle est un petit peu trop courte. Et ça, en musique, elle est connue, cette quinte, c'est ce qu'on appelle la quinte du loup. Elle est utilisée dans un certain nombre de compositions. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai mes 12 notes de ma gamme chromatique. Et je peux prendre, par exemple, ici, la gamme de Do, et regarder, en fait, toutes les notes de la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et vous voyez que je peux les obtenir à partir d'une corde, simplement en fractionnant la corde avec des fractions qui sont construites à partir des puissances de 2 et des puissances de 3. 8 demi, 8 neuvième, c'est 2 à la puissance 3 sur 3 au carré, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez que finalement, toutes les notes de la musique, ce sont des fractions très très simples, et que cette gamme qu'on appelle la gamme pythagoricienne est construite à partir de 2 et de 3. Alors, comme Leibniz le remarquera, il dira, bah, finalement, la musique est un exercice d'arithmétique secrète, et toute personne qui s'y adonne ne réalise pas qu'il manipule des nombres. Vous faites de la musique, et en fait, sans le savoir, vous faites des mathématiques. Donc, en jouant de la musique, finalement, vous faites du calcul avec des 2 et des 3. Ça, c'est juste une sorte de remarque. C'est-à-dire que vous avez des nombres, vous avez fait des choses avec des nombres, et puis vous avez remarqué qu'il y a un phénomène physique qui est ici la vibration d'une corde et la sensation que produit la vibration de cette corde. Et vous pouvez dire, mais c'est quand même bizarre cette coïncidence. Et comme souvent en science, quand il y a des coïncidences, il y a le risque de tomber dans un certain mysticisme. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'école pythagoricienne, qui était aussi une école mystique. Et la base de la mystique pythagoricienne, c'est ce qu'on appelle le tétractis. Et le tétractis, qu'est-ce que c'est ? C'est cette figure qui est un triangle constitué de 10 points, avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Et chaque point, en fait, avait une signification. Donc le 1, c'est l'unité. Le 2, c'est l'alternance, quoi, l'opposition entre le fini et l'infini. Le 3 était le cosmos. Et le 4 était l'univers. Et le 10, ici, c'est le nombre parfait. Et c'est finalement la somme de ces 4 premiers chiffres. Et donc, il y avait une adoration énorme sur ce symbole. Ici, je vous ai trouvé une petite citation, bon, je ne vais pas le lire ni traduire, qui vous montre, en fait, qu'il y avait des prières, qui vous raconte qu'il y avait des prières liées, en fait, à l'évolution de ce symbole. Donc, vous avez ce symbole qui est là devant vous. Et puis, si vous regardez, vous dites, mais attendez, 1 sur 2, c'est-à-dire 7 lignes sur 7 lignes, c'est l'octave. 2 sur 3, c'est la quinte. Et puis, 3 sur 4, c'est la quarte. Et puis après, je peux m'amuser, je peux prendre les nombres par bloc. Ici, j'ai 3, quoi, j'ai 1, j'ai 3, j'ai 6. Et ça, c'est ce qu'on appelle des nombres triangulaires. Et en fait, ils apparaissent dans un certain nombre de problèmes mathématiques. Et on voit qu'il va y avoir aussi une mystique par rapport à toutes ces catégories de nombres. Donc, les nombres, finalement, seraient au cœur finalement, de la compréhension du monde, puisque votre représentation mystique vous dit, bah, finalement, c'est pas étonnant, finalement, que tout marche bien, puisque ce qui est tout, c'est ça, c'est cette figure. Et donc, tout doit pouvoir se construire à partir de 1, de 2, de 3 et de 4. Alors, pour revenir sur cette notion qui va se développer à partir de là, qu'on appelle l'harmonie du cosmos, harmonia tout cosmos en grec, et on voit que cette notion-là, elle est basée d'une part sur une relation entre un phénomène physique, c'était ces sons qui étaient faits, donc vraiment une relation sensorielle, une formulation mathématique de ce phénomène physique à la base de nombres, et que cette relation entre les deux est révélée par une expérience. On a pris des cordes, on a pris des verres, on a pris des cloches. Ben ça, si vous réfléchissez un petit peu, c'est ce qu'on fait quand même quand on fait de la physique aujourd'hui. On prend des phénomènes physiques, on fait des modélisations mathématiques de ça, puis on les met à l'épreuve avec des expériences pour voir si notre modélisation est correcte. Donc quelque part, on pourrait dire que même si ça va tomber dans un certain mysticisme avec cette notion d'harmonie, eh bien, la démarche de Pythagore est une démarche scientifique au sens moderne du terme. Et ça, ça va nous faire dévier vers cette idée que, comme le dit Aristote, eh bien, toute chose est nombre. Et ça, c'est quelque chose qui reste jusqu'encore à aujourd'hui. On se rappelle, par exemple, de Galilée qui, dans L'Essayeur, nous dit que le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent que notre univers, en fait, tout ce qui est sous-jacent à notre univers, n'est qu'une structure mathématique. Et ça, on ne peut pas prouver le contraire. C'est une sorte de platonisme à l'extrême. Et dans ce platonisme à l'extrême, eh bien, le concept central va être celui de cosmos, et ce mot qui caractérise en fait le monde complètement organisé, à l'opposition du chaos. Mais en fait, ce mot cosmos a deux sens. D'une part, ça nous parle de l'univers, c'est le mot que Pythagore avait choisi pour parler de la voûte céleste, donc la voûte sur laquelle auraient été déposées les étoiles. Et ça va nous donner des mots comme cosmologie, cosmonaute, donc une relation à l'univers, et d'autre part, une relation à des concepts de beauté, comme par travers le mot cosmétique. Et ça, c'est pas étonnant, parce qu'en fait, le mot cosmos veut pas simplement dire ordre en grec, il veut aussi dire parure. Donc c'était les colliers que portaient les femmes, qui étaient des très très beaux colliers. Et en choisissant ce mot, vous voyez, Pythagore nous rappelle que, finalement, quand je regarde le ciel étoilé, et que je me laisse aspirer par ce ciel étoilé, eh bien, ce sentiment que j'ai face à la beauté de l'univers, c'est exactement ce sentiment que j'ai face à la beauté d'une femme qui aurait un très très beau collier, par exemple. Donc, ouais, voilà, c'est la grecque ancienne, hein, chacun peut fantasmer comme il veut, mais c'est comme ça. Donc ça, pour l'instant, on a parlé de musique et de nombres, et vous voyez, là, je commence à parler de l'univers, donc ce que va faire Pythagore, c'est de mettre ça en relation avec la représentation d'univers qu'on avait à l'époque, et à l'époque, on avait une représentation géocentrique de l'univers, donc on avait la Terre au centre de l'univers, et la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne tournaient autour de la Terre sur des orbites qui sont des cercles, et puis on avait une sphère ici, vous voyez, avec des petites étoiles, qui s'appelle la sphère étoilée, qui tournait aussi autour de nous. La question, c'est si l'univers est si parfait, eh bien, le mouvement de ces planètes doit aussi être régi par les mêmes nombres. On doit pouvoir faire cette relation, parce que sinon, nous ne vivrions pas dans un univers aussi parfait. Donc, les gens observaient le mouvement de ces planètes, et en fait, on réussit à se rendre compte qu'on pouvait aussi les exprimer à partir de ces nombres premiers. Donc, il y avait une relation très intime entre musique, mathématiques et astronomie. Alors ça va donner une tradition qui va se développer jusqu'à Kepler, même après, sur cette notion d'harmonie des sphères. Elle va d'abord être reprise par Platon dans le Timée. Et alors lui, Platon, il va aller encore plus loin. Alors ça, vous en faites pas, c'est juste que j'avais envie d'être un peu mystique à la rentrée, comme ça. C'est juste, mais faut pas prendre ça au sérieux. Mais regardez, ça c'était le Tétractys de... Ah non, il y a 1, 2, 3, j'ai oublié une ligne. C'était mon Tétractys où j'ai mis, vous voyez, des nombres dessus. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 8, 12. Et ce que va faire... alors, si vous prenez le Tétractys comme ça, c'est pas ce que faisait Pythagore, hein, mais vous faites ça, déjà, vous retrouvez tous les éléments de la musique. Hein, parce que ça, ce sont des octaves, ici. Ça, ce sont des quintes. Et puis ça, ce sont des quartes. Puis vous pouvez amener avec de trouver toutes les notes de musique dans ce diagramme-là. Alors, ce que va faire dans le Timée, ce que Platon fait, c'est qu'il dit, bah, finalement, on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin de garder simplement 1, 2, 4, 8, 3, 9, 27. D'accord ? Et vous voyez, donc, il va construire tout l'univers à partir de ces rapports-là, donc les trajectoires des planètes autour du Soleil. Et vous voyez, pour ceux qui ont fait un peu de cosmologie, ça vous rappelle un lambda, quoi. Donc, franchement, de là à dire que dans le Timée, déjà, Platon avait prédit la constante cosmologique, je pense qu'il fallait, bon, il fallait le dire ce soir, en début de nouvelle année, comme ça. La prochaine fois, tu m'inviteras pour le 1er avril, mais je pense que, il fallait le remarquer parce que personne encore dans l'histoire des sciences n'avait osé aller jusque-là. Alors, de façon plus sérieuse, Aristote va dire « Oui, attention, c'est bien joli cette construction, c'est très esthétique, c'est très harmonieux, on peut s'amuser tant qu'on veut, mais c'est plutôt onirique, c'est de la poésie, faut pas, l'univers n'est pas comme ça. » Et puis, Cicéron va reprendre l'idée, il va se dire « Attention, non, je ne pense pas que ça soit la taille des orbites qui soit donnée par ces noms, mais plutôt leur vitesse. » Bon, plutôt leur vitesse. Pourquoi pas? Donc, dans le Songe de Scipion, qui est un très beau texte où il réexplique tout ça. Et ça va continuer pendant le Moyen-Âge. On va arriver, par exemple, à des représentations qui sont celles-ci. Donc, Robert Flood, qui est un Anglais, et qui est connu surtout pour avoir fait la première description du baromètre. Il a fait aussi des études sur la circulation du sang. Et puis, il était un petit peu mystique et alchimiste, comme tout le monde bien éduqué à son époque. Et il a proposé cette histoire de monochorde céleste, donc qui est une relation entre les proportions des trajectoires des planètes, les notes de musique, et aussi les proportions du corps. Voilà. Donc, et puis, vous voyez les quatre éléments qui sont ici, hein, puisque c'est les quatre lignes aussi dans le Tétractys. Et ça va arriver jusqu'à Kepler. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a un truc marrant, par exemple, parce qu'on se posait la question de savoir, mais ces sons, ces planètes, font-elles vraiment des sons? Si elles font des sons, il faut qu'elles frottent sur quelque chose. Et par exemple, Léonard de Vinci a écrit un traité pour savoir si les planètes frottaient sur le ciel pour émettre des sons. Donc, c'était vraiment une question que les plus grands esprits ont considérée. Jusqu'à Kepler, qui est connu, alors, ça vous en avez sûrement entendu parler puisque vous venez souvent ici, qui sont les lois de Kepler. Alors, ces lois de Kepler qui sont une description du mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, ce sont des lois qui sont des lois empiriques, déterminées à partir d'observations astronomiques. Et on connaît les trois lois de Kepler. Donc, le fait que les orbites sont dans un plan et sont des orbites elliptiques et que le Soleil occupe un des foyers de cette ellipse et que l'air balayé en un temps donné va être la même, quel que soit l'endroit sur cette trajectoire. Et la fameuse troisième loi de Kepler qui nous donne une relation entre la taille de l'orbite, ici, et la période, donc le temps qu'il faut pour faire un tour de l'orbite. Il faut simplement mettre ça au cube et ça au carré. Vous voyez que toutes les planètes s'alignent sur une loi. Donc Kepler a découvert ça, et Kepler était très féru de géométrie, parce que pour faire ses calculs, il n'avait pas d'ordinateur, c'était simplement des constructions géométriques. Il était très féru de géométrie, il connaissait la tradition, et il a écrit cette œuvre qui est L'harmonie du monde, en 1619, et c'est un livre fabuleux qui est composé de cinq gros chapitres. Le premier traite des polyèdres réguliers, ce qu'on appelle les polyèdres platoniques, donc construits à partir de polygones réguliers. Et puis ensuite, il va parler des proportions harmoniques en musique, c'est un peu la théorie, mais avancée de ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire prendre ces fractions, construire les gammes, et il y avait plusieurs modes, donc il y a des exercices d'arithmétique assez avancés dans cette partie-là. Ensuite, il va traiter des configurations harmoniques en astrologie. Mais c'est normal à cette époque, puisque la notion d'astrologie et d'astronomie n'était pas complètement dissociée à l'époque. Donc quand on traite de l'un, on doit traiter de l'autre aussi. Et ensuite, il va arriver sur l'harmonie des orbites planétaires. Il va arriver à cette représentation, finalement, que ce soit en musique, que ce soit en géométrie, pour les éléments qui constituent la matière, que ce soit pour les planètes, eh bien, tout est régi par ces harmonies entre nombres 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc on va réussir à expliquer toute la réalité simplement avec quelques nombres qu'on manipule. Donc il arrive à cette représentation et en particulier il va associer à chaque planète une sorte de petite musique qui va être reliée à sa trajectoire autour du Soleil. Et pour cela, regardez ce qu'on fait, c'est qu'on prend la trajectoire, la planète va plus vite ici qu'ici. Donc on a une durée d'un motif qui est la période de la planète, et en fait, ici, c'est une note plus aiguë, ici, une note plus grave. Donc comme on a une variation de vitesse le long de la trajectoire, ça va nous donner plusieurs notes. Si j'avais une planète qui avait une trajectoire strictement circulaire autour du Soleil, j'aurais une note continue, toujours la même note, car toujours la même fréquence. Donc pour les trouver, vous pouvez imaginer que vous avez un cercle qu'on appelle osculateur ici, donc qui serait juste comme ça, un cercle comme ça, et puis ici un grand cercle. Et ça vous donne les deux fréquences limites, en fait, de ces notes de musique. Donc voilà ce que propose Kepler. Vous avez Mercure, Vénus, la Terre, et Mars, Jupiter et Saturne. Alors ce qui est très très drôle dans cette histoire, c'est que vous connaissez quelle est la chanson de la Terre ? C'est Mi Fa Mi Fa, et ce qu'il interprète comme Miseria Famina, Miseria Famina. C'est la chanson que chante notre planète, ce qui est très engageant. Mais donc on comprend en fait tous les problèmes de cette planète. Voilà. Alors ça va être... À partir du moment où on a des motifs musicaux, on peut s'amuser à écrire de la musique, et il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Alors on rapporte, alors ça je l'ai lu, mais je ne l'ai pas... c'est un truc que je n'ai jamais réussi à écouter, une composition du XIIe siècle qui serait basée strictement sur ces motifs. Alors Jean-Baptiste Lully va reprendre le truc, il va faire un truc qui s'appelle... il va écrire un morceau qui s'appelle « Le ballet des planètes », mais alors il y a une vision politique là-dedans, puisque le Soleil, c'est le roi Soleil, et chaque planète est un ministre. Donc c'est une satire... faut vivre avec son temps. Joseph Haydn, dans Le Monde de la Lune, reprend aussi ce genre de relation. Alors, vous avez sûrement entendu parler de cette composition Les Planètes de Gustav Holst, mais là, c'est plus une version astrologique, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas, en fait, ces notes proposées par Kepler. Ce qu'il va faire, en fait, c'est écrire des thèmes qui sont liés à la représentation astrologique de la planète. Par exemple, Mars, c'est le guerrier, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, plus récemment, il y a eu, je vais vous faire écouter un petit morceau de jazz, en fait, par Willie Ruff et John Rogers, qui ont fait des choses qui sont électroacoustiques, assez intéressantes. Et nous, on a utilisé ça aussi dans notre composition, donc on a un peu changé, parce qu'on s'était dit que ça avait déjà beaucoup été utilisé. Donc on a refait la même chose avec les étoiles qui tournent autour du centre galactique, parce que là, elles ont des ellipticités beaucoup plus grandes, et donc il y avait une variété de sons. Donc on s'est amusé à reprendre la même technique de calcul pour attribuer à chaque étoile qui tourne autour de notre trou noir central des notes de musique, et puis à jouer avec ça. Donc on va écouter un petit passage de cette composition là de Ruff et Rogers. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont basés sur la... Donc ils sont allés jusqu'à Pluton. La période de Pluton autour du Soleil, c'est quoi ? C'est 248 ans, je crois. Et donc ils ont fait un morceau de 22 minutes qui représente 267 ans de révolution planétaire. Ils vont partir du centre du Soleil, et puis on va d'abord croiser Mercure et ensuite Vénus et tout ça. Donc maintenant, essayons de voir si ça marche. Donc là, vous reconnaissez Mercure, ça a une grande amplitude. D'accord ? Ah, ça, vous reconnaissez Vénus ? Regardez, c'est une orbite qui est presque circulaire, il n'y a pas beaucoup d'amplitude, donc c'est comme ça. Vous voyez ? Bon, on ne va pas écouter les 22 minutes, parce que sinon, on est encore là demain matin, parce que j'ai deux choses à vous faire écouter. Donc on va se faire... On peut s'amuser longtemps. J'avais donné cette conférence et un jour, il y a quelques temps, on m'a dit « mais ça, c'est pas de la musique ». Je dis « je suis désolé ». C'est aussi de la musique, c'est-à-dire que c'est pas celle qu'on écoute à la radio, mais elle est quand même très intéressante. Donc ça, ce morceau-là, il est difficile à trouver, mais si vous cherchez bien sur Internet, vous pouvez en écouter 10 minutes d'affilée. Donc c'est intéressant et vous allez reconnaître... si vous écoutez bien, vous allez reconnaître en fait tous ces motifs et voir qu'on s'éloigne du Soleil et on a chaque planète qui rentre et que ça fait des mélanges de sons et tout ça et tout ça. Bon, tout ça c'est de la mystique et on voulait quand même parler un petit peu de cosmologie. Donc le cosmos c'est un truc qui ressemble à ça. Comment parler de ça en musique ? Donc la première chose, ça c'est une image qu'on a avec un télescope, on regarde avec nos yeux, c'est de la lumière. Donc la première chose qu'il faudrait faire, c'est se poser la question de savoir quelles sont les relations, les différences, les similitudes entre le son et la lumière. Et alors pour faire très court, les deux, le son et la lumière, ce sont deux types d'ondes. Et la différence principale, c'est que le son, ce sont des ondes de pression, donc qui se propagent dans un fluide, dans un gaz, et elles ne peuvent pas se propager dans le vide. Alors, comme il ne faut jamais rien croire, on va reprendre ce qu'a fait Robert Boyle en 1660, qui est le premier à avoir prouvé que le son ne se propage pas dans le vide. Donc, vous allez avoir ici... Alors, on va voir si le petit film fonctionne. Donc, ça va être... Vous allez voir un jeune homme. Là, il a fait le vide. Vous n'entendez rien.
Mais que se passe-t-il avec cette cloche ? Elle ne t'aime pas.
C'est normal, j'ai retiré l'air qu'il y avait à l'intérieur. Il suffit d'ouvrir le robinet.
Ah oui, effectivement.
Donc ça, c'est l'expérience faite par Robert Bosch en 1660 pour prouver que le son ne se propage pas dans le vide. Et vous voyez, on voit la cloche. Donc finalement, la lumière, elle, se propage à travers le vide puisque je suis capable de voir la cloche qui est à l'intérieur de cette enceinte dans laquelle on a fait le vide. Alors la lumière, ce qu'on va comprendre, et ça, c'est dû à Maxwell au 19e siècle, c'est que la lumière est une onde électromagnétique et qu'elle, elle peut se propager dans le vide. Et ça, ça va être une des différences principales entre le son et la lumière, donc des ondes de pression et ici des ondes électromagnétiques. Et souvent dans la nature, les deux sont associés. Vous avez sûrement, comme moi, vu des beaux orages comme ça. Et là, vous avez les deux mécanismes. Vous avez à la fois le tonnerre et les éclairs, donc la lumière qui se propage jusqu'à vous et le son qui se propage aussi jusqu'à vous. Et vous avez remarqué qu'en général, ce n'est pas synchronisé. C'est simplement que comme ce sont deux types d'ondes différents qui ont deux modes de propagation différents, eh bien la vitesse de propagation de ces ondes est différente. Voilà, la lumière se propage à la vitesse de la lumière, c'est très facile à se rappeler, alors que le son dépend, on ne dit pas qu'il se propage à la vitesse du son, parce que la vitesse du son, ça dépend de la température, de la densité, il n'y a pas vraiment un nombre qui est attaché à ça. Donc ça veut dire qu'on a des phénomènes physiques qui ont des sons et des lumières, on en connaît beaucoup, je vous ai parlé de l'orage, il y a les dunes, par exemple, qui chantent, il y a les aurores boréales, ici, si vous voyez des aurores boréales, ce sont des grands rideaux qui oscillent comme ça, et vous entendez du crépitement. D'accord. Et alors il y a des légendes, par exemple les Inuits, donc qui sont du Grand Nord, racontent que les aurores boréales crépitent parce que il y a les morts qui descendent et qui jouent à la balle avec les têtes de morts, c'est que ça fait crépiter les aurores boréales. C'est une belle histoire. Et on pourrait utiliser tout ça pour faire de la musique. Et je vais quand même vous faire écouter. Alors on pourrait des dunes. Ça c'était quelque chose qui a été fait il y a une dizaine d'années par des gens du laboratoire de l'École normale supérieure et de l'ESPCI, en particulier Stéphane Douady et Philippe Claudin. Ils se sont amusés à essayer d'écouter le chant des dunes. Donc on va écouter un peu le chant des dunes. Donc ce qui se passe, ce sont des ondes de vibration de votre dune. Ils ont mis des micros dans les dunes et voilà ce que l'on peut entendre si on caresse une dune. Alors si vous faites c'est bientôt les vacances pour aller au ski, mais vous pouvez aussi faire de la luge sur les dunes. Et voilà comment chante la dune quand vous faites. Bon, on ne peut pas continuer. Et puis si vous marchez sur la plage, vous n'en avez pas conscience, mais voilà ce que vous faites. Ça c'est le vent. Vous allez. Donc c'est ça, c'est le bruit des pas sur le sable de la plage, ce n'est pas un chien. Donc j'espère que cet été vous marcherez bien en rythme sur la plage, parce que ça doit être très désagréable pour les coquillages qui sont au fond. Voilà. Donc ces objets vibrent, et comme ils vibrent, ils émettent du son, et si on peut arriver à enregistrer ce son. Quand c'était le tonnerre ou les aurores boréales, ce son se propage parce que nous sommes sur Terre et que nous avons l'atmosphère, donc c'est l'atmosphère qui permet à ces ondes de se propager. Mais souvent, en fait, on ne peut pas utiliser notre propre atmosphère pour propager ce son. Quand vous écoutez la radio, vous avez quelqu'un qui est à Radio France en train de parler dans un microphone, c'est une onde sonore, mais si on écoutait cette onde sonore, chez vous, vous n'entendriez rien. Elle serait dissipée et vous ne recevriez aucun signal. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on utilise. En fait, on va transformer cette onde en lumière d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on va avoir notre présentateur radio qui parle. C'est une onde sonore et un micro va transformer cette onde sonore en un signal électrique, ici. Et ce signal électrique va être convolué avec une onde radio qui va être une porteuse. On peut faire des modulations d'amplitude ou de fréquence, c'est AM et FM sur votre poste radio. Et en fait, l'onde va se propager sous forme électromagnétique entre l'émetteur et le récepteur. Et le récepteur, c'est votre poste radio. Et le poste radio, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait l'opération inverse et il a un petit micro et il transforme cette onde électromagnétique en son. Donc vous entendez quelqu'un qui parle, qui est une onde sonore, par votre oreille, donc c'est vraiment une onde sonore, mais entre ici et ici, cette onde n'était pas sous la forme d'une onde sonore, elle était sous la forme d'une onde électromagnétique. Et c'est pour ça qu'elle a pu se propager sur des grandes distances. Alors si à la radio on a le droit de faire, et que quand on écoute la radio on dit que c'est du son, on va aussi avoir le droit de faire ça en astrophysique, d'accord ? C'est les mêmes règles du jeu. Et comme je vous l'ai dit, ce qu'on va faire, c'est tout à fait similaire à ce qu'on a fait en optique. On a notre œil qui est accessible, qui a accès à un certain nombre de couleurs, mais aujourd'hui, nous avons des représentations de l'univers dans des bandes de longueur d'onde, depuis l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet et les rayons X, qui sont en dehors de ce que nous pouvons visualiser. Et on voit qu'on arrive à voir le soleil dans ces bandes de longueur d'onde qui sont inaccessibles à notre œil. Donc si on mettait un filtre et on ne gardait que cette longueur d'onde-là, on ne verrait pas le soleil avec notre œil. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait cette image en fausse couleur, et l'utilisation de ces différentes longueurs d'onde a permis d'apprendre des choses sur le fonctionnement du soleil. Donc, on va se permettre de jouer le même jeu avec les sons. Donc, la première question, c'est de savoir, est-ce que l'on peut entendre des sons? Est-ce qu'on peut voir des couleurs? Et pour cela, qui de mieux que nos deux muses? Vous les reconnaissez? Écho et Narcisse. Donc c'est le son et la lumière, et ça nous rappelle, en fait, ce mythe nous rappelle que Écho et Narcisse, vous savez, ils sont liés, parce que Écho n'aime que lui-même, il regarde sa réflexion dans l'eau, il est amoureux de lui-même. Narcisse. Et puis Écho, qui est amoureuse de Narcisse, ne peut faire que répéter le dernier mot que quelqu'un dit, et donc en particulier que Narcisse dit. Et donc elle, c'est le son. Et vous voyez, ça nous rappelle qu'il y a des phénomènes qui sont très très similaires entre le son et la lumière. Par exemple, le phénomène de réflexion existe pour le son, il existe aussi pour la lumière. D'accord ? Si j'ai un miroir, mais vous avez entendu l'écho, par exemple, quand vous êtes dans une cave, eh bien c'est le même phénomène physique. La diffraction, les interférences, eh bien ce sont des choses qui existent aussi bien pour le son et pour la lumière. Alors peut-on entendre les sons, peut-on voir les couleurs? Et vous imaginez bien que les artistes se sont posé la question depuis très très longtemps. Et je vais juste vous donner quelques exemples, parce que ça vous montre à quel point les gens peuvent être imaginatifs. Et le premier qui a vraiment fait quelque chose de concret, c'est Charles Blangati. Alors c'était un artiste, peintre, ingénieur aussi, suisse. Et dans les années 1930, il a créé cet appareil qui est le chromographe. Donc l'idée, c'est tout simple, c'est vous écouter de la musique. Il a mis, avec cet appareil-là, vous avez tous les instruments de l'orchestre, vous voyez, les timbales ici, des violons par ici, peut-être des violoncelles, des contrebasses. Et en fait, plus le son est aigu, plus la couleur va être bleue et va sortir en fait de cet instrument. Et puis vous mettez votre morceau, et puis ce truc-là projette sur votre écran eh bien, une symphonie de couleurs qui représente cette traduction en couleurs et en fréquences aussi du morceau que vous écoutez. Alors Charles Blancati avait commencé à faire un petit film à partir de cette technique. Je crois que c'est en 1938, il a rencontré Walt Disney lors d'une exposition de peinture qu'il avait à Paris. Il lui a parlé de son idée, il lui a dit « j'aimerais bien faire un film ». Et à l'après-guerre, vous savez, Fantasia est sortie par Walt Disney, et donc Blangati était complètement furax. Il a fait un procès à Walt Disney, lui disant qu'il avait piqué son idée. Mais c'est vrai que si vous regardez Fantasia, eh bien, il y a ça, il y a tout ce passage où on a, comment s'appelle le truc de Ducasse, l'apprenti sorcier, avec ses balais de lumière. Et aujourd'hui, vous avez des écrans d'ordinateur qui font ce genre de choses. Par exemple, vous mettez votre musique sur ordinateur, puis ça fait des trucs comme ça. Donc il y a des logiciels qui font ça. Donc là, vous voyez, c'est une façon de visualiser un petit peu les sons. Ça vous rappelle un peu des trucs comme le piano cocktail, par exemple, de Boris Vian, qui lui, il jouait du piano et ça faisait des cocktails. On peut s'amuser à mélanger les sens, tout dépend ce qu'on aime. Voilà, alors il y a eu d'autres façons de visualiser ces vibrations. Vous voyez ici, c'est Jules Lissajous. Alors Jules Lissajous, il a fait un truc très intéressant. Il a pris deux diapasons ici. Vous avez, il y en a un qui est dans cette direction et l'autre dans la direction opposée. On va le regarder ici, par exemple. Donc ce diapason, il vibre comme ça. Et celui-ci, il vibre comme ça. Et puis là, vous avez de la lumière qui vient d'une lampe qui va se réfléchir sur un petit miroir qui est ici, puis ici. Donc vous voyez, comme le diapason vibre, eh bien, le petit miroir bouge, ce qui va changer l'angle d'incidence et ce qui va déplacer ce faisceau dans cette direction-là. Et lui, comme il vibre comme ça, de temps en temps, ben, je suis comme ça, je vais rebondir là. Et si le miroir est comme ça, il y a un angle d'incidence plus grand et donc je vais rebondir plus bas. Et donc, avec ces deux diapasons qui vibrent, eh bien, le faisceau lumineux va suivre une certaine trajectoire sur l'écran. C'est ce qu'on appelle une courbe de Lissajous. Et si, par exemple, vous prenez deux diapasons qui jouent la même note, par exemple deux là, donc ce sont deux oscillations sinusoïdales identiques, eh bien, la trajectoire que l'on va obtenir, ça va être, selon le déphasage de ces deux ondes, soit un segment, soit une ellipse, soit un cercle, s'ils sont exactement avec un déphasage en quadrature. Donc ça, c'est ces deux sons identiques. Et quand j'ai un facteur 1,5 dans les fréquences, ça veut dire que je suis à l'octave. Et vous voyez, à l'octave, eh bien, j'obtiens toute une série de courbes différentes. Et si je suis à 2/3, vous vous rappelez 2/3, qu'est-ce que c'est ? La quinte, donc les quintes, voilà, les quintes font elles font ces schémas qui sont là. Donc ça a été utilisé pas mal. Il y a des gens, donc Charles Wheatstone, qui était un ingénieur anglais, il a fait ce truc qu'il appelle le kaléidophone. Il disait que c'était un jouet philosophique, ça marche sur le même principe. Et voilà des figures qui sont reproduites par cet objet-là qu'on fait vibrer de deux façons différentes. Et puis ça a amené à des choses comme, donc ça c'est un mathématicien écossais qui a créé ce qu'il appelle l'harmonographe. Alors l'harmonographe c'est le même principe. Ici on a des pendules qui peuvent osciller. La fréquence d'oscillation d'un pendule dépend de la taille en fait entre la masse et puis le point d'appui ici. Donc il va osciller plus rapidement si la masse monte. Donc je peux régler l'endroit de la masse et puis je peux avoir donc les faire osciller de façon identique. Vous voyez ici, celui-là il est relié à une feuille sur qui peut osciller, puis celui-ci à un stylo. Donc je peux voir les mouvements qui se combinent. Et puis vous voyez, vous avez là encore, ils sont en phase, on retrouve les mêmes figures et on peut faire des choses. Alors ce qui est marrant, bon ça c'est juste, c'est marrant. Juste, on voit comment on compose deux signaux alternatifs. Ce qui est plus marrant encore, c'est si on relie ça à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'harmonie des sphères. Vous voyez, sur chaque figure ici, c'est mes rapports qui sont liés à mes notes. Maintenant, je peux faire la même chose, me dire, ah ah, mais tout à l'heure, c'était aussi lié au mouvement des planètes. Quel serait le dessin que ferait, par exemple, Mercure vu de Vénus ? Ou Vénus vu de Mercure, c'est symétrique. Eh bien ça, vous faites les trajectoires. Autour du Soleil, ce sont des ellipses. Mais vu d'une autre planète qui tourne, ça fait des mouvements compliqués. Et là, vous voyez, voici le mouvement de Mercure autour de Vénus. Et ça, et voici le mouvement de Mercure autour de la Terre. Vous voyez ce genre de figure. Alors bien sûr, vous retrouvez la même chose que ce genre de figure que vous avez là. Et ça, c'est une autre façon de voir cette relation que Pythagore et les Grecs avaient trouvée entre les tailles des planètes et ces notes de musique. Bon, c'est pour ça que j'avais appelé ça l'harmonie des sphères bis. Alors, les musiciens se sont aussi, les peintres se sont aussi inspirés de musique. Ça, c'est un tableau de Paul Klee qui s'appelle La fugue en rouge. Vous avez une fugue, c'est un morceau de musique dans lequel on a un thème qui va être répété, qui va être transposé, qui va être retourné avec des symétries. Et là, vous voyez, c'est bien ça, en fait. C'est des formes qui se courent les unes après les autres. Et donc Paul Klee a fait beaucoup de choses comme ça. Il faut savoir que Paul Klee était violoniste. Il s'est beaucoup intéressé entre cette relation entre son et lumière, entre art graphique et sonore. Et puis ça a mené plus loin à des gens qui se sont dit finalement faisons une correspondance. On va attribuer une couleur à chaque note. Et puis à partir de ça, on va pouvoir finalement représenter, faire des orgues par exemple qui vont mettre des couleurs. C'est ce qu'a fait Alexandre Scriabine. Voilà ce qu'Alexandre Scriabine a proposé. Et il avait cet outil qui est donc l'orgue chromatique. Et il a écrit une pièce pour orgue chromatique en 1909 qui s'appelle Prométhée. C'est Prométhée, c'est ça, qui a été créé en 1915 et dans lequel on utilise l'orgue chromatique. Donc il y a de la musique et en même temps ça vous fait un ballet de couleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Scriabine, tout comme Olivier Messiaen, avait ce qu'on appelle la vision colorée. Alors la vision colorée, c'est quelque chose qui s'appelle aussi la synesthésie. C'est le fait que quand vous entendez un son, vous voyez une couleur. Et ça arrive chez certaines personnes s'ils font de la musique depuis très très jeune. Il se peut que leur développement de cerveau, ils ont fait tellement de musique que les aires de la vision et de l'ouïe, en fait, vont avoir des connexions qui ne devraient pas être là. Et vous avez beaucoup de musiciens qui vous disent « mais cette note, je l'entends bleu, cette note, je l'entends rouge ». Et on a beaucoup de compositeurs qui ont, en fait, qui disent voir des couleurs. Ça les aide dans leur composition. Vous voyez ici, Olivier Messiaen le dit très très bien. Lui, il met les sons les uns à côté des autres, comme il utilise des couleurs en les juxtaposant, en les mettant en valeur les uns par rapport aux autres. Voilà, exactement comme s'il faisait de la peinture. Alors en physique, il y en a un qui est très connu pour avoir cette vision, c'est Richard Feynman. Il semblerait qu'il ait eu cette synesthésie entre les graphèmes, donc des petits crobards, et les mathématiques. Donc quelque part, ça lui permettait de... Et la couleur, pardon. Et donc il voyait ses dessins en couleur, et Feynman est très connu pour avoir inventé une méthode de calcul qui est basée simplement sur des diagrammes. Voilà, donc il y en a un certain nombre dans l'histoire qui sont connus pour ça. Ça, ce n'est toujours pas l'univers. Donc vous voulez qu'on parle de l'univers maintenant ? On va faire l'univers. Donc la façon la absolue de parler de l'univers en musique, j'en connais qu'une seule, c'est celle-ci, c'est le sens de la vie des Monty Python. Est-ce que vous connaissez tous le sens de la vie des Monty Python ? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le sens de la vie des Monty Python ? Bon. Alors, juste, on ne va pas le regarder en entier, vous pourrez le trouver, mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un morceau qui dure 2 minutes 40 et qui vaut tous les séminaires de vulgarisation, puisque vous savez tout sur l'univers après 2 minutes 40, donc...
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, And things seem hard or tough. And people are stupid, obnoxious or daft. And you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power.
C'est juste.
The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.
On va s'arrêter là. Donc voilà ce qu'on peut faire quand on s'appelle les Monty Python. C'est beaucoup mieux que ce que je suis en train de faire. Donc, allez le regarder, parce que c'est vraiment grandiose. Mais ça, tout est vrai. Et si on, c'est exactement, ça colle à nos représentations de l'univers. Et vous lui dites des choses qui sont vraies sur les galaxies, sur les étoiles, le mouvement des planètes, l'expansion de l'univers, et ainsi de suite, jusqu'à l'origine. Et c'est pour ça que j'ai coupé. Il n'y a pas d'enfant dans la salle, mais vaut mieux. Quoi. Vous irez le voir sur Internet. Hein. Donc, essayons de faire de la musique. Dans la musique, il y a plein de choses. Il y a des notes, il y a des sons, il y a des rythmes. Alors, on va commencer par les rythmes. Commençons. Donc, pour commencer par les rythmes, on peut parler des objets qui sont les pulsars. Alors, les pulsars, c'est des objets qui ont été découverts, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, en 1967. Et c'est une astronome anglaise, s'appelait Jocelyn Bell, qui travaillait à Cambridge, qui faisait de la radioastronomie, voici un radiotélescope, et qui faisait des observations, et qui, dans ses observations, a détecté un signal très, très régulier. Tic, 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 comme ça, comme une pendule. Alors, on ne savait pas ce que c'était. Cet objet, on l'a appelé LGM-1, ce qui veut dire Little Green Man 1, parce qu'on pensait que créer quelque chose d'aussi régulier comme une montre suisse, eh bien, ça ne pouvait être fait que par des êtres intelligents capables d'avoir une technologie. On ne pensait pas qu'un phénomène naturel pouvait avoir une telle régularité. Et ensuite, on a compris que ces objets, ce n'était pas, en fait, relié à des extraterrestres, c'était des étoiles à neutrons. Donc, des étoiles à neutrons, ce sont des étoiles qui sont formées après l'explosion d'une supernova, qui sont, dans lesquelles la matière est presque à l'état nucléaire. Par exemple, si vous preniez une étoile qui a la masse du Soleil, je crois qu'elle ferait 10 km de rayon. Et ces étoiles tournent très très rapidement sur elles-mêmes, elles peuvent avoir un champ magnétique, et donc ça va ioniser un peu, il peut y avoir une magnétosphère autour, ça va faire de l'émission de radiation. Et en fait, comme vous avez ce champ magnétique ici qui tourne, à une vitesse constante, s'il intercepte la Terre, il va l'intercepter régulièrement, et donc vous allez entendre des tic-tic-tic ou un signal juste au moment où vous voyez l'intersection avec ce champ magnétique. Un petit peu comme quand vous regardez un phare, vous avez juste une lampe, la lampe tourne à une vitesse constante, donc vous avez l'impression de voir des signaux lumineux qui arrivent à fréquence constante. Donc je vais vous faire écouter un pulsar, c'est le pulsar de Vela, qui se trouve dans l'hémisphère sud. On estime qu'il a été formé il y a 12 000 ans, et sa fréquence, donc c'est 11 Hz, ça veut dire qu'il fait 11 tic-tic par seconde. Donc voici Vela. Là, on n'a pas besoin d'écouter des heures, parce que c'est toujours la même chose. C'est tellement précis que ces objets ont été utilisés pour tester la relativité générale. Si vous avez une étoile à neutrons, qui est un pulsar comme ça, dans un système binaire, donc qui tourne autour d'une autre étoile, eh bien en fait, cette fréquence qui est très constante va diminuer un petit peu au cours du temps, parce que ça va vous montrer comment l'orbite, la période de rotation de ce pulsar autour du compagnon change avec le temps, et ça change simplement à cause de l'émission d'ondes gravitationnelles. Donc on peut tester la relativité générale avec ces horloges très très précises qui sont aux confins de l'univers. Mais nous, on veut faire de la musique. Et ça a été fait. Donc il y a eu ce compositeur qui s'appelle Gérard Griset, qui a écrit une pièce qui s'appelle Le Noir de l'Étoile, et qui est une pièce pour les percussionnistes de Strasbourg avec pulsar imposé. Donc ça a été créé en 1998, je crois, Et il avait travaillé en particulier avec Jean-Pierre Luminet. Ils ont fait la création à l'observatoire de Meudon. Vela était, donc il voit de l'hémisphère sud, était observé dans l'hémisphère sud. Ça avait été, c'était transmis. Donc on avait Vela en direct et les percussionnistes de Strasbourg qui jouaient dessus. Et il y a une pièce, donc ça, je peux vous en faire écouter un tout petit bout. Pour vous voyez. Donc ça, c'est Vela. Ça, c'est Vela. Et puis après, vous allez entendre. Et après, il y a les percussionnistes qui improvisent là-dessus. Il y a toute une pièce qui dure, je crois, 12 minutes, qui est simplement avec pulsar imposé. Donc, on a pu utiliser les sons. Alors, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est, je vous ai dit, on transforme le son en onde électromagnétique pour qu'il se propage dans le vide, et ensuite, on le retransforme en son. Il pourrait se propager sur une autre forme que des ondes électromagnétiques, par exemple, des ondes gravitationnelles. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire. Par exemple, si on prend deux étoiles qui vont spiraler l'une autour de l'autre pour former un trou noir, eh bien, ils vont émettre des ondes gravitationnelles. Eh bien, ces ondes gravitationnelles, je peux les transformer de nouveau en son. Alors ça, pour l'instant, on n'est pas capable, parce qu'on n'a jamais détecté ces objets-là. Mais ça, ce sont des simulations numériques qui vous montrent, en fait, le signal d'ondes gravitationnelles que produiraient différents objets. Et on peut les écouter et on peut jouer avec. Donc ici, par exemple, c'est la capture d'un trou noir de 10 masses solaires par un trou noir d'une masse solaire. Voilà ce que ça émettrait en termes d'ondes gravitationnelles. Vous voyez ici ? D'accord ? Donc vous voyez bien, c'est bien le signal qui est ici. Vous avez une fréquence qui augmente avec le temps. Vous avez l'intensité qui augmente. Et puis il y a un moment, finalement, ils sont splouch comme ça. Vous savez, Michel Cassé appelle ça le baiser de la mort, je crois. Et puis après, ça forme un seul trou noir, et puis là, il n'y a plus rien, parce que le trou noir, il a symétrie sphérique, il ne peut plus rien rayonner du tout, donc c'est fini. Donc on peut faire ça avec différents types d'objets, on ne va peut-être pas tous les écouter, mais voilà, par exemple, la phase inspiralente, on peut écouter comment... Le trou noir, voilà. Alors ça, nous, on l'a utilisé... Avec Eddy Ladoire dans notre pièce, on s'est dit, finalement, on avait du son spatialisé, on a 6 haut-parleurs, donc on peut faire le son qui tourne autour de vous, avec comme ça, et puis le trou noir qui se forme sous vos pieds, et physiquement, vous sentez le trou noir se former, c'est assez marrant. Et surtout, vous pouvez jouer avec ces sons, et puis faire, par exemple, une fugue pour trou noir. Vous pouvez vous amuser à faire une fugue pour trou noir et l'écouter, et puis c'est très drôle. Alors maintenant, des objets qui vibrent vraiment, on avait écouté les dunes, on avait vu que ça vibrait. Il y a une chose qui vibre très bien, ce sont les étoiles. Les étoiles pulsent. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle l'astérosismologie. Donc on regarde les modes de vibration des étoiles. Les étoiles sont des grosses boules de gaz, de l'hydrogène, de l'hélium. Et il y a des gradients de densité, de température, et donc les ondes de pression vont se propager de façon différente selon la structure interne de l'étoile. Donc on peut observer la façon dont la surface de l'étoile vibre et apprendre des choses sur la structure interne de l'étoile. Mais ce qu'on peut faire surtout, c'est de se dire, finalement, ce sont des gros tambours qui vibrent. Je vois la surface vibrer, je vais, à partir de cette observation en optique, écouter comment ces étoiles vibrent. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui a été fait beaucoup par Sylvie Vauclair depuis plusieurs années, où elle parle du champ du soleil et tout ça. Donc ici, par exemple, cette étoile, Xi Hydrae, qui est une étoile... Et puis on peut en écouter d'autres. Et en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait ces deux chercheurs qui doivent être hongrois, vu leur nom, qui ont composé un morceau pour étoiles. Donc ils ont un ensemble d'étoiles, comme ça, et puis ils jouent pour étoiles. Alors c'est bien, sauf en concert, où c'est plus difficile, parce que là, il faut, sur scène, les étoiles, ça chauffe un peu. Mais sinon, on peut s'amuser à faire ce genre de choses. Alors l'endroit, moi, qui m'est plus cher, dans lequel on a vraiment des ondes sonores, qui est tout à fait similaire, c'est dans l'univers primordial. Vous avez vu cette image ici, qui est l'observation de notre univers en micro-ondes par le satellite Planck, le fameux fond diffus cosmologique. Et en fait, le fond diffus cosmologique, toutes ces petites fluctuations de température ici, représentent des ondes de vibration dans le plasma primordial, puisqu'à très haute température, la matière était ionisée, on avait des protons, ici des noyaux d'hélium, des électrons, et puis tout ça était couplé avec la radiation. Et la température se baissant, en fait, les atomes vont se recombiner, les noyaux vont se recombiner avec des électrons pour donner des atomes qui sont électriquement neutres, et la lumière interagit très faiblement avec eux, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il va y avoir ce découplage, l'univers va devenir trop peu dense pour avoir des ondes de pression, et ce qu'on va voir, c'est la lumière qui se propage, mais dans ces signaux lumineux restent imprimées les ondes de pression qui se propageaient dans ce plasma. Donc en fait, ceci nous dit quelque chose sur les ondes de pression qu'il y avait dans l'univers primordial. Et on a ce spectre qui nous dit finalement, pour chaque mode de vibration, quelle est l'intensité de la vibration que j'avais. Et ça, on peut le décomposer. Donc voici par mode de... Alors ça, c'est la carte entière. Et voici par mode de vibration l'amplitude, la forme des vibrations, comme quand vous tapez sur un tambour. Et ça, si vous regardez, c'est ce qui arrive à une guitare que vous faites vibrer. Donc on regarde les mouvements par interférométrie de la surface et on voit ces mouvements de vibration. Et vous voyez, c'est tout à fait similaire à ces mouvements de vibration ici. Et vous voyez, les mouvements de vibration vous disent quelque chose de ce qu'on appelle les conditions bord, c'est-à-dire de la forme de l'objet ici. On voit qu'elles épousent le fait que finalement là, ça s'arrête. La caisse de résonance a une certaine forme. Et on sait que les instruments qui ont des formes différentes vont donner des sons différents parce qu'ils vont exciter les différents modes avec des amplitudes relatives différentes. Alors ça, c'est la même chose avec l'univers. Et il y a 10 ans, à l'époque où on travaillait sur la topologie, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on s'était dit, mais si l'univers a une forme un petit peu qui n'est pas... a une forme, c'est-à-dire qu'elle pourrait être un tore ou des choses comme ça, eh bien ça va changer la puissance relative dans les différents modes. Donc en fait, on s'était posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait entendre la forme de l'univers. Et on avait fait tout un travail là-dessus, et je ne veux pas aller plus loin. Mais c'est-à-dire que le but, c'était de se dire, voilà, ce sont des ondes de pression. Donc on va écouter un peu de WMAP, de Planck, par exemple. De Planck, pas de WMAP, ici, on n'a pas le droit, c'est interdit. On va écouter un peu de Planck, parce que je pense que ça va illustrer quelque chose de très, très important. Donc là, vous allez juste écouter un morceau, on regarde en différentes directions. Comme on a des couleurs différentes, on a un spectre différent, on entend des notes qui sont un petit peu différentes. Alors, où es-tu ? Tu es là ? Donc c'est toujours la même note dans une direction. Quand ça change, ça veut dire que je change de pixel. Voilà. Donc ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de faire de l'analyse, que vous compreniez ce que ça veut dire faire de l'analyse de données, des données Planck. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, faut pas le dire aux gens de Planck parce que ça a été donné sous le manteau, du signal brut de Planck, du bruit de Planck, et moi je vais vous faire du traitement donné, je vais faire le signal moins le bruit, et on va voir si on a de l'information. D'accord ? Donc voici ce qui se passe quand vous prenez un détecteur de Planck et que vous écoutez ce qui sort du détecteur. Ouais, allez faire de la physique avec ça, vous êtes mal barré. Alors le bruit, à quoi ressemble-t-il ? Ça a l'air plus ou moins la même chose. Mais si vous faites la différence des deux, voilà ce que vous faites. Ah, c'est une note. Donc vous voyez, si c'est une note, ça veut dire que c'est une fréquence bien déterminée, donc on est en train de voir un signal. Alors bien sûr, la séparation de composants, elle n'est pas aussi simple que ça, c'est pas je prends deux trucs et je fais la différence, il y a plein de choses très subtiles, mathématiques et de traitement du signal à faire, mais voilà, cette carte ici, finalement, résulte de cette opération-là, qu'on peut entendre, et c'est assez intéressant. Bon, Daniel, tu stresses un peu, mais j'ai encore des choses à dire. Parce que les notes de musique, ce sont des points. Et en astronomie, nous avons beaucoup de points. Vous voyez, ça, ce sont des points, des cartes du ciel avec des points. Et donc, quand on a des points, on peut s'amuser à faire de la musique avec. Alors, voici un exemple de John Cage. Donc, voilà la façon dont John Cage écrit de la musique. Si vous avez un peu étudié la musique comme moi, et vous vous retrouvez devant un truc comme ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il fait des points et il fait des dessins. Et il demande à l'orchestre de jouer ça. Je vais vous montrer une partition de John Cage. Voilà, une page de John Cage. Mes amis, voici pour votre quatuor, vous devez me jouer ça. Et là, vous êtes... Et alors, ces gens y arrivent, c'est ça qui est merveilleux. Donc, s'ils arrivent à jouer ça, je peux vous dire qu'on va pouvoir jouer des cartes du ciel sans problème. Ah, c'est zen, hein. Bon, voilà, ça, c'est un petit extrait de John Cage. Donc ça veut dire que cette technique a été utilisée, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, on prend des points, et puis on se trouve une façon de les jouer, et puis ça va faire de la musique. Donc John Cage l'a fait dans cette œuvre qui s'appelle Atlas et Ecliptikalis. David Bedford l'a fait dans une œuvre qui s'appelle Grit Equatorial. Philip Glass l'a fait dans un truc qui s'appelle Orion. Grit Equatorial, il a été créé pour le... Je crois que c'est pour la rénovation de l'observatoire de Greenwich, en Angleterre. Philip Glass, il avait écrit ce truc Orion, et lui, ce qu'il a fait, il a été encore plus intelligent, parce qu'il a vraiment pas fait grand-chose. Il a pris une carte du ciel, puis il a tracé des lignes dessus, il a dit, voilà, c'est des notes de musique. Bon. Ah. Et donc vous pouvez vous amuser à jouer par exemple les constellations. Alors ça, je me suis amusé à faire. Je vais vous faire écouter un petit peu d'Orion comme ça. Vous voulez écouter un peu d'Orion ? C'est ma version d'Orion. Attends, oui, c'est pour l'instant. Voilà, donc ça dure. En fait, on balaye la carte avec un certain algorithme et puis on joue des notes. et puisqu'on peut s'amuser. Alors après, c'est des règles, ça, vous faites ce que vous voulez. Ça, vous voyez, c'est une distribution de galaxies. Donc vous voyez, les galaxies, le temps passe comme ça, donc on est plutôt par là. Eh bien, elles vont se structurer pour donner ces grandes structures, ces filaments, ces grands vides. Et en fait, si on est en train de se dire, ben, ça, c'est le temps, et puis ça, c'est des accords, je peux m'amuser juste à jouer mes accords comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Et au moment où il y a des vides, je devrais quand même entendre qu'il y a moins de notes qui sont jouées ou que quand elles s'agglutinent le long de filaments comme ça, je devrais entendre des clusterings de notes. On l'écoutera tout à l'heure si on a envie, parce que c'est un peu, ça casse un peu les oreilles. Donc on peut s'amuser à jouer comme ça. La question suivante, c'est est-ce qu'on peut jouer des théories physiques ? Ah ben oui, mais attendez. Donc voilà une théorie physique. Est-ce que vous la reconnaissez ? Comment ça, vous rigolez ? Pardon ? Ah, mais vous êtes très éduqué. Donc voilà une partie du mécanisme de Higgs. Lui, c'est le boson de Higgs, là, le phi. Ah, mais c'est marqué là. Don't forget Higgs. Il vous l'a dit. Et puis, on fait des calculs. Vous voyez, ces calculs sont avec des diagrammes, comme ça. Ben, ça, c'est des pictogrammes. Donc déjà, là, on est en train de faire du dessin. Et on voudrait savoir si on peut jouer ces trucs-là. Alors, il faut se rappeler que, si on veut le faire, des développements de la physique du XXe siècle, parce que au XXe siècle, on a découvert que la description de la nature devait être, que la nature devait être décrite par ce qu'on appelle la mécanique quantique. Et ça, ça nous apprend une chose, c'est que toute matière est vibration. Toute matière est onde, et toute onde est matière. Ah ben alors, si toute chose est onde, je peux m'amuser à jouer avec les particules, parce que ça va être des ondes, et des ondes, c'est du son, quelque part, et donc je vais pouvoir jouer avec. Et quelqu'un qui a fait, alors c'est difficile de savoir à quel point il a été inspiré par ça, mais c'était Edgar Varèse, un des plus grands compositeurs français du XXe siècle. Il a écrit cette pièce qui s'appelle Ionisation, et ici, voilà une page de Ionisation. Donc là, si je vous donne cette page et que j'enlève les fortés, là, pour vous, si vous trouverez ça un peu louche, je vous montre ça, et puis je le compare par exemple à des trucs que j'ai piqués à mon collègue Patrick Petitjean, là à côté. Vous voyez, c'est très similaire. C'est très similaire. Donc ça, la partition de Varèse, c'est presque de la spectroscopie. Et Varèse vous le dit exactement. Il dit, moi, je ne fais pas vraiment de la composition. Ce que je vais faire, c'est que... il dit qu'il va faire de la sculpture... Give me the impression of movement, please. Bon. Ah, voilà. Ce qu'il appelle musique, c'est du son organisé, et lui-même n'est pas un musicien, mais un travailleur du rythme, de la fréquence et de l'intensité. Donc ça, les gens qui font du traitement donné, ils font exactement la même chose. Et donc, il a écrit cette pièce qui décrit l'ionisation d'un atome d'hydrogène par de la radiation. Et moi, je trouve ça fabuleux. Donc si vous savez ce que c'est que l'ionisation, avec les électrons qui sont là et la radiation qui arrive et qui veut les faire partir, et qu'eux, ils veulent rester, et qu'ils sautent d'un niveau quantique à l'autre, et bien c'est exactement ça. Donc là, c'est calme. Ça s'excite un peu, ça chauffe. Ça, c'est la radiation qui arrive. Et après, ça va complètement délirer. Quand même. Quoi, il faut imaginer. Mais si vous avez déjà fait des calculs de spectre atomique, et c'est exactement ça ce qui se passe avec moi. Alors, voilà, bref. Écoutez-le, c'est génial. Donc, vous voyez, ça, c'est avec la physique atomique. Et puis, aujourd'hui, il y a des collègues qui vous disent que, finalement, la nature de la réalité à l'échelle la plus intime, ce sont des petites cordes qui vibrent. Donc, finalement, on est retourné au fait que, eh bien, nous ne sommes que des cordes qui vibreront. Je pense que Pythagore serait vachement content d'apprendre que nous sommes des cordes qui vibreront. Et on peut s'amuser aussi à parler de l'histoire de notre univers. Et ça, il y a des gens qui se sont inspirés de différentes représentations de l'univers. Par exemple, dans les années 50, Gamow avait ce modèle d'univers cyclique, et ça a inspiré Stockhausen pour créer cet album qui s'appelle, cette composition qui s'appelle Ilem, qui est basée exactement sur cette idée d'un univers en expansion qui se recontracte et qui rebondit. Et vous voyez, donc ça, c'est aussi proche de cette représentation de l'Ouroboros, et on le retrouve dans différentes traditions. Ici, c'est chez les Zen du Japon. C'est le mot qui veut dire univers, il s'appelle Enso, et c'est exactement cette idée d'univers cyclique. Et il y a pas mal de compositeurs qui se sont inspirés des connaissances de la cosmologie pour faire des compositions. Alors, par exemple, Bernard Parmigiani, qui habite là, dans le 14e, à côté, il a écrit La création du monde, et c'est exactement une œuvre sur le Big Bang. Il y en a un certain nombre. Celui qui est très intéressant, c'est Frank Zappa. Vous connaissez Frank Zappa ? Il s'est intéressé à ce qu'on appelle « the big note ». Et donc, pour lui, tout l'univers venait d'une note. D'accord ? Donc c'est un peu l'atome primordial de Georges Lemaître. Et cette note, il a écrit son truc, c'était dans les années 70, et cette note, il dit, c'est un si bémol un petit peu en dessous. Et comment il a trouvé ça ? Il savait qu'il y avait la détection du corps à 3K, et il a transformé ça, ou il en a parlé avec des collègues, que ça correspondait à un si bémol un peu flat. Et il a toute cette idée que finalement tout part d'une seule vibration et que la multiplicité du nombre va venir de cette multiplicité. Donc tout ça, vous voyez, c'est s'amuser avec ce qu'on sait de l'univers, on pourra en parler déjà, et puis pour essayer de motiver des choses, des nouveaux sons avec lesquels on va pouvoir travailler. Donc ça dit des choses sur l'univers un petit peu, ça dit surtout des choses sur nous, mais c'est un peu la même chose sur l'univers, hein. Quand vous regardez l'univers, vous parlez d'abord de vous, et la musique c'est pareil, quand vous me dites la musique que vous écoutez, je peux vous dire un peu qui vous êtes, et on pourrait se poser la question de savoir qui on a dit que nous étions, nous terriens, et ça on l'a fait puisqu'on a envoyé des disques dans l'espace, donc le Golden Record donc, qui a été envoyé, c'était sur Voyager, où là on explique aux extraterrestres comment trouver la Terre. Si vous avez vu des films, vous savez que c'est une très mauvaise idée de dire aux extraterrestres où vous habitez. Mais donc ici, c'est l'atome d'hydrogène. Et donc, en fait, les extraterrestres doivent être suffisamment intelligents pour comprendre que ça, c'est un atome d'hydrogène, ce qui permet de décrypter tout le truc pour savoir que ça, c'est des directions et que ça, c'est les distances des différents quasars et de faire de la triangulation dans notre galaxie. Bon, bref, si vous n'êtes pas extraterrestre, vous ne pouvez pas le faire. Mais de l'autre côté, il y a de la musique et... Je me suis demandé, ça je connaissais depuis très longtemps, c'était lancé dans les années, c'était quoi, 77, je crois. Et je me suis dit, quelle musique est-ce qu'on a envoyée aux extraterrestres pour leur dire, c'est nous les humains. Donc j'ai fait, je vous ai mis la liste de ce qu'on avait envoyé pour les extraterrestres. Donc vous voyez, c'est pas si mal que ça. Donc il y a bien sûr de la musique classique, avec du Bach, ça. Il y a beaucoup de ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'ethnomusique, des chants du Sénégal, de Java, de l'Australie, vous voyez, des chansons aborigènes. Du Pérou, d'un peu du monde, il y a pas mal de musique classique, et ce qu'on voit quand même, c'est que les gens aimaient beaucoup Bach. Il y a 3 fois Bach, il y a 2 fois Beethoven et 1 fois Mozart. Donc au niveau musique classique, ils avaient une certaine éducation, mais pas complètement, et ils ont rajouté là-dessus un discours du président Jimmy Carter. Voilà. C'est-à-dire que ça devait intéresser les extraterrestres de savoir que le président du monde, c'était Jimmy Carter. Et donc là, ça nous dit un petit peu, voilà, comment nous, dans les années 70, on se voyait en termes de culture par la musique. On pourrait s'amuser à faire la même chose aujourd'hui, se dire, eh bien, on pourrait refaire un Golden Record comme ça, et se dire, eh bien, on voudrait projeter dans l'espace, peut-être avec des radiotélescopes ou des trucs, une autre identité en termes de son. Et ça serait intéressant de faire un comité pour décider des musiques que l'on mettrait. Mais je pense que la sélection serait un petit peu différente. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'était une sorte de balade, de rentrée entre différents phénomènes de l'univers et puis comment on peut les croiser avec la musique. J'espère que ça vous a intéressé, parce que moi, ça m'amusait de le faire. Et puis voilà. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est beaucoup plus qu'un intermède musical, hein. C'est une invitation à vivre dans l'harmonie, en tout cas, l'harmonie des sphères toute l'année. C'est bien.
Ouais, ça me fait plaisir. Écouter de la musique, c'est marrant.
Voilà. Je me demandais si tu as dit que la musique c'est du bruit organisé.
Le.
Tu as dit. Enfin, c'est pas toi qui as dit que la musique est du bruit organisé.
Ah, c'est Edgar Varèse.
Ouais. Je me demandais si le bruit était de la musique en liberté. Ça marche dans l'autre sens.
Ah, tu peux discuter avec lui, mais il est mort, donc c'est difficile.
Bon.
Donc,
Est-ce que vous avez des questions?
Oui, j'ai rêvé. Vous m'avez fait rêver. C'est déjà très bien. Dites-moi, quand on mélange les couleurs. Le visible, on a, non pas une couleur blanche, mais on a une sensation blanche. Quand on mélange les notes, est-ce qu'on peut avoir un bruit blanc ?
Ah, ça existe le bruit blanc. Le bruit blanc, c'est du bruit qui va avoir la même amplitude, quelle que soit la fréquence. C'est plat. Et on dit, d'ailleurs, il y a des bruits donc, qui vont avoir ce qu'on appelle un indice spectral, donc plus d'intensité à haute fréquence ou à basse fréquence, et on va appeler ça des bruits bleus ou des bruits rouges, un spectre bleu ou un spectre rouge, par analogie, en fait, aux couleurs. Voilà. Donc, après, c'est juste, ça veut dire la même chose.
Bon, vous nous avez fait un exposé fort amusant de traduction de phénomènes réels en phénomènes sonores. Est-ce, quitte à paraître terre à terre, est-ce que ça peut marcher dans l'autre sens ? Autrement dit, à partir d'une analyse de phénomènes physiques, on peut faire progresser l'aspect scientifique des choses ? Ou pas ?
Oui, ça dépend ce qu'on appelle faire progresser. Moi, j'ai progressé, là. Mais on peut faire progresser, c'est-à-dire qu'il y a plein de relations entre le son et la lumière. Donc cette histoire de transformer du son en lumière et de la lumière en son, on le fait tous les jours. À l'époque, on utilisait des disques qui étaient des disques, des vinyles. Et là, qu'est-ce que c'était un vinyle? C'était en gros un truc qui montait, qui descendait, puis un saphir qui frottait, et ça faisait le son. Donc c'était vraiment du frottement et du mouvement qui donnait le son. Et on a inventé les CD. Ben, les CD, c'est des trucs de silicium, mais on utilise des lasers. Donc finalement, on utilise de la lumière qu'on va retransformer en son. Et puis on peut transformer du son en lumière, il y a les phénomènes d'électroluminescence par exemple, dans lequel du son va être transformé en lumière. Et ça on peut probablement, je crois, là je ne veux pas dire de choses sur lesquelles je n'ai pas regardé, mais je suis sûr qu'on peut utiliser ça pour créer des appareils. Par exemple, il y a tous des gens autour de Mathias Fink à l'ESPCI qui utilisent le son et la manipulation du son pour localiser le son et utilisent ça par exemple pour faire, pour faire de la médecine. Ils arrivent à localiser du son très précisément comme on localise de la lumière sur un caillot, par exemple, pour le faire exploser. Et donc là, il n'y a plus besoin de laser ou de choses comme ça. Donc, bien sûr, le son, ce sont juste des ondes sonores. C'est vrai qu'en astronomie, celles auxquelles on a accès, ce sont des ondes électromagnétiques. Je ne suis pas sûr que ce jeu-là puisse permettre de faire progresser beaucoup la connaissance de l'univers. Mais pour le monde, pour notre monde à nous, oui, parce qu'un objet comme une table, on la voit, mais elle va aussi vibrer. Et ça, c'est des choses qui sont étudiées comme sujet à part entière.
Voilà. Parler des calculs rénaux.
Oui, parce que nous aussi, on détruit des calculs. Donc on fait différemment, on prend la feuille, on déchire, on met à la poubelle.
Alors, il y a une question.
Ah, c'est la rentrée, c'est bien la rentrée.
Oui, c'est bien. Une question toute au fond, ça va me faire faire un peu d'exercice.
On dit souvent que l'univers est en harmonie. Est-ce que dans votre concept, est-ce qu'il y a une définition de ce qu'est l'harmonie par rapport au son qu'on a écouté? Parce que par exemple, quand on a écouté tout à l'heure le son de Jupiter ou de Vénus, c'est un son, mais je ne trouve pas que c'est en harmonie. Ou bien la définition d'harmonie, au fait, c'est quoi?
C'est une très bonne question. Parce que je pense que la définition, elle est culturellement déterminée aussi par votre éducation. C'est-à-dire que quand vous écoutez de la musique, c'est ni beau, ni mal, ni mauvais. C'est si vous avez l'habitude d'écouter quelque chose, vous allez reconnaître. Et parce que vous reconnaissez, vous vous habituez, vous vous sentez à l'aise dans ce paysage-là. Donc ça, c'est la première. Donc vous pouvez voir de la beauté là où il y en a d'autres qui vont rien voir du tout. Après, on avait quand même cette idée qu'il y avait ces nombres et cette théorie derrière qui permettait de représenter de façon mathématique les choses assez simples. Et moi, je pense que c'est un petit peu ça qu'on veut dire quand on parle d'une théorie physique ou d'un modèle qu'il est harmonieux, qu'il est beau, c'est que finalement, on utilise une modélisation mathématique qui lui va juste bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas baroque, il n'y a pas plein de trucs en trop, et puis il fait exactement ce qu'on veut avec une sorte de minimalité dans les ingrédients mathématiques. Un peu comme quelqu'un à qui vous mettez un costume, et le costume lui tombe juste bien. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop serré. Il est harmonieux, il est bien dedans. Vous savez, c'est James Bond ou un truc comme ça, ou Cary Grant qui arrive. Il a son costume qui tombe parfaitement. Mais si vous avez le costume trop grand, c'est Jerry Lewis, c'est pas harmonieux. Ça peut être drôle, mais c'est pas harmonieux. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre la représentation mathématique et le phénomène qui est juste ce qu'il faut. J'ai pas mis des ingrédients mathématiques pleins en trop et que ça devient baroque. J'ai pas un modèle qui est surcontraint, finalement, j'ai pas de liberté. Ça tombe juste bien. Et ça me permet de décrire tous les phénomènes que je veux avec le minimum de formalisation mathématique. Donc ça serait ma définition à moi. Je pense que je suis le seul à la partager.
Oui, mais... tu es peut-être le seul à la partager. Parce qu'il y a, je vous renvoie quand même des réflexions très intéressantes par Jean-Marc Lévy-Leblon, que tu as sûrement lu, qui finalement questionne cette idée-là, sur laquelle une théorie doit être belle, qu'est-ce que ça signifie?
Non, mais elle a pas...
En fait, mais pour que l'adéquation avec la vérité, avec les phénomènes que l'on décrit, soit le plus juste possible. Et en fait, c'est vrai que l'expérience montre que très souvent, on part d'une théorie qui a l'air belle, et ensuite, on est obligé d'ajuster. Exactement. Et là, ça devient de moins en moins beau, hein, même si on a besoin de ça pour commencer.
Et comme dirait Einstein, tu changes de tailleur.
On change de tailleur.
Exactement.
Non, mais oui. Mais souvent, on est obligé d'accommoder le même vêtement et de le garder longtemps.
Oui.
Même s'il n'est pas très...
Bon. Merci pour cette conférence. Elle est sensationnelle.
Merci.
Quelle est votre relation avec Dominique Proust, qui a écrit deux bouquins sur l'harmonie des sphères, et justement qui parle de l'orgue et de l'univers.
Je ne sais pas si on peut parler de relations, mais je connais, bon, Dominique, je le connais, il travaille à Meudon, j'ai fait ma thèse, on s'est rencontrés plusieurs fois. Lui, il a une approche complètement différente, c'est-à-dire il joue de l'orgue, et en fait, il a cherché dans les compositeurs qui s'étaient basés sur ses idées, des compositions qui reprennent ses idées d'harmonie. Il a fait un CD, en fait, où il joue ses compositions, et il parle de l'harmonie des sphères au sens de Kepler. Il ne fait pas tout le petit délire là, que j'ai fait avec mes machins. Il s'est pas amusé à faire ça. Mais donc voilà, c'est une approche plus, je veux dire, musicologique, dans le sens où lui, c'est un très bon organiste, et puis il fait des concerts de musique des sphères, et il parle de l'histoire de l'astronomie ensemble, donc c'est complémentaire, on va dire.
La musique d'Herschel en particulier.
Oui, Herschel.
J'ai beaucoup m'intéressé à ça, oui.
Ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Il y a plusieurs années, j'ai emmené mes élèves à Nancy, et nous sommes arrivés dans la partie centrale où sur les ordinateurs arrivaient les sons de l'univers, et l'ingénieur qui était à un écran nous a dit « Dépêchez-vous, arrivez !» Ça fait 10 ans que j'attends ce qui va arriver. Et nous avons entendu le son d'un pulsar qui arrivait pour la première fois. C'était très émouvant, mais j'en ai encore la chair de poule. Et nous avons entendu un cœur qui battait. C'était très régulier et on entendait pom, 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 pom.
Ah, c'est très régulier, le pulsar.
C'était extrêmement émouvant.
Voilà, je vous ai fait écouter Vela, donc c'en est un autre, il a d'autres
fréquences. Merci.
Ça, c'est... Moi, j'ai jamais vu un pulsar naître, alors je ne sais pas.
Voilà, s'il y a plus de... Y a-t-il encore une question? Oui.
Oui, c'est juste une remarque. Il est regrettable que notre grand Pascal ne soit pas ici, parce qu'il faudrait se demander si le silence des espaces infinis l'effraierait toujours.
Ah oui, mais voilà. C'est voilà. Comme Barrès, hein, vous allez faire un club, parler avec les morts pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais...
Bien, il me reste à remercier Merci Jean-Philippe pour cette conférence. On vous donne un rendez-vous au mois de février. Merci encore.